Radio Okapi.
Journal présenté par Belinda Bosuma.
Plus que quelques heures pour la clôture des dépôts des candidatures pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Cependant, le collectif des députés républicains s'oppose à la présence de Christophe Mboso, de Serge Bahati, de Caroline Bemba, car selon eux, ces choix sont teintés de clientélisme et de népotisme. Et puis ce message de solidarité des prélats catholiques des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, message adressé au cardinal Fridolin Ambongo, faisant allusion notamment à l'information judiciaire ouverte à l'encontre de l'archevêque de Kinshasa. Les évêques de CERAO encouragent ce dernier à tenir ferme en restant fidèle à sa mission prophétique. Et puis, l'invité de ce matin, Valérie Madianga, coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFEDEL. Il nous parle des dépassements budgétaires constatés dans l'analyse du budget parlementaire entre 2021 et 2023. Ceci est contenu dans le rapport intitulé « Le biface du Parlement congolais, un contrôleur contrôlé ». Madame, Messieurs, bonjour. Élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. À quelques heures de la clôture des dépôts des candidatures, plusieurs députés de l'Union sacrée s'opposent au ticket retenu par le Présidium. Si les candidatures de Vital Kamerhe et de l'UNC à la présidence, Jean-Claude Chilumbay de l'UDPS à la première vice-présidence, Jacques Joly de l'AB au rapporteur et Dominique Mounongo de Ensemble au rapporteur adjoint ne posent pas de problème, le collectif des députés républicains s'opposent cependant à la présence de Christophe Mboso, de Serge Bahati et de Caroline Bemba au bureau de l'Assemblée nationale car selon ses élus, ces choix sont teintés de clientélisme et de népotisme. Michel Kifindangoy.
Dans une déclaration ce week-end, les députés dits républicains dénoncent la violation des articles 26 et 27 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par ces choix du Présidium de l'Union sacrée qui ne respectent pas, selon eux, l'équilibre géostratégique. Les députés Steve Mbikai qualifient ce choix de clientélisme et de népotisme.
Ce qui fâche, c'est que il y en a qui ont placé leurs enfants, leurs sœurs, une seule province comme le Sud Kivu, même tribu avec deux personnes au bureau. Comme dans ces partis politiques-là, il n'y avait pas quand même d'autres gens élus des autres provinces pour faire l'équilibre. On impose honorable Mboso au bureau, on ne sait pas sur quelle base. Tout ça, on devait en principe en débattre et on dénonce le potisme que nous avons découvert de la façon de faire de ce présidium.
En effet, d'après ces députés, Modeste Bahati veut placer son fils à la questure et Jean-Pierre Bemba, sa sœur, à la questure adjointe. Ces députés s'opposent aussi à la candidature de Christophe Mboso à la deuxième vice-présidence. Ils promettent donc de voter pour des candidats non alignés si le président de la République ne revoit pas ce ticket retenu par le Présidium de l'Union sacrée.
Par ailleurs, malaise au sein de Ensemble pour la République, premier parti d'opposition en République démocratique du Congo, après le départ de Jacky Ndala, ancien président de la Ligue des jeunes du parti. Francis Kalombo, interfédéral pour la ville de Kinshasa, n'a pas digéré son remplacement sans en être préalablement notifié, alors qu'il évoque un problème personnel et un abus de la part du secrétaire général du parti. Dieudonné Bolenge Tenge a précisé au cours d'une matinée politique samedi à Kinshasa que Francis Kalombo avait déjà été appelé à d'autres fonctions. Des précisions dans ce reportage de Michel Kifindangoy rendu par Jude Bilanda.
Dans une sortie médiatique ce week-end, l'ancien interfédéral du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi s'est montré révolté face à la décision du secrétaire général du parti, Francis Kalombo.
S'il a envie de gérer le parti, il est secrétaire général. J'ai l'impression que ce qui le préoccupe, c'est la ville-province de Kinshasa. Il nous a mis les bâtons dès le départ que nous avons été à la tête de cette ville. Ensemble ne va pas mourir parce qu'il y a quelqu'un qui est ému de sa personne, qui pense que lui doit dicter les lois.
Dieudonné Bolenge Tenge justifie sa décision par les soucis de redynamiser les partis afin de se préparer aux prochaines élections.
Ce qui est vrai, notre frère Francis Kalombo, avec d'autres frères comme l'honorable Moukebaï, avait déjà été nommé communicateur national du parti au mois de mars 2023. Maintenant qu'on veut se relancer, il est tout à fait normal qu'on redistribue les cartes. Il ne s'agit pas de suspendre Francis Kalombo dans le sens de le sanctionner parce qu'il aurait mal agi, non.
Sous couvert d'anonymat, un autre cadre d'Ensemble pour la République estime qu'il est urgent pour que le président Moïse Katumbi mette fin aux divisions intestines qui risquent de déstabiliser la bonne marche du parti.
Nous vous encourageons à tenir ferme face aux défis sécuritaires persistants et à la mauvaise gouvernance en RDC et à continuer de partager le message d'évangile de Jésus-Christ en restant fidèle à votre mission prophétique, déclaration contenue dans le message de solidarité que les cardinaux, archevêques et évêques des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, adresse au cardinal Fridolin Mbongo. Les prélats catholiques du CERAO disent exprimer leur solidarité avec ce dernier en ce temps d'épreuve. Alain Irung a lu pour nous cette lettre.
Nous suivons avec inquiétude les événements de ces derniers jours, notamment l'ordonnance du 27 avril du procureur général près la Cour de cassation de la RDC, Firmin Vonde Mambu, au procureur général du tribunal du district de Matete à Kinshasa, d'ouvrir une enquête sur le comportement séditieux du cardinal Mbongo. Nous vous prions d'accepter notre expression de solidarité pour ce harcèlement et les traitements dégradants. Éminence, nous vous portons dans nos prières. Nous prions aussi pour vos fidèles. Nous vous souhaitons les bénédictions continues de Dieu et des initiatives renouvelées dans votre ministère pastoral, conclut cette lettre qui porte la signature de Mgr Alexis Toabé Lioulo, président des CERAO.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, au moins 35 000 ménages des déplacés de guerre du site de Kanyabayonga, commune rurale du territoire de Lubero, plaident pour une assistance. Selon leur représentant, Richard Kaloumé, ces déplacés qui fuient les combats entre les FARDC et les rebelles du M23 dans le territoire voisin de Rutshuru, sont dépourvus de tout et n'ont reçu aucune assistance. Ils demandent au gouvernement congolais et aux humanitaires de leur apporter une aide d'urgence. Richard Kaloumé, joint par André Kitenge.
À ce jour, nous sommes à plus ou moins 35 000 ménages, sans pour autant compter ceux qui sont en train de venir. Ces déplacés ont du mal à vivre parce que il n'y a pas vraiment d'assistance régulièrement, ni de la part du gouvernement, même des organisations humanitaires. Depuis octobre 2022, vraiment, il n'y a eu que 4 organisations humanitaires qui ont assisté ici à Kanyabayonga. Depuis le 6 mars 2022, on est maintenant à 24 décès de déplacés, bien sûr. En tout cas, on ne voit pas l'implication du gouvernement pour soulager la souffrance de ces déplacés. Parce que depuis que les déplacés sont dans cette partie de Kanyabayonga, on n'a jamais vu le ministère des Affaires sociales. Nous profitons également pour appeler les organisations humanitaires de se focaliser beaucoup plus sur cette situation, parce que la vie qu'on est en train de mener actuellement à Kanyabayonga, c'est vraiment une vie de désespoir.
Du côté de l'Ituri, l'administrateur du territoire d'Irumu condamne l'attitude de certains habitants de sa juridiction qui se déguisent en rebelles d'ADF, ce dans le but de régler des comptes à certains compatriotes. Le colonel Siro Simba l'a dit samedi lors d'une causerie avec les populations d'Idou et Ndimo dans la chefferie de Wale Sevankutu. L'objectif de cette mission d'itinérance est, selon lui, d'évaluer la situation sécuritaire et définir des mécanismes pour épauler l'armée et la police dans leurs efforts de pacification de cette région. Le colonel Siro Simba rappelle que la communauté locale joue aussi un grand rôle aux côtés des forces de défense et de sécurité pour favoriser le retour d'une paix durable. Un extrait de ses propos choisi par Jean-Claude Loki.
Actuellement, il y a des faux ADF qui opèrent. Vraiment, l'esprit des vrais ADF continue à hanter les Congolais. Aujourd'hui, nous perdons des gens à cause de conflits de cacao. C'est tout simplement de la haine. Lorsqu'il y a quelqu'un qui a des biens de valeur, allez, on s'attaque à lui. Le voilà, il est là en train de passer. Puis on les tue, soi-disant, au nom des rebelles ADF. On le sait depuis toujours, les ADF ne demandent jamais de l'argent à leurs otages. Soit ils relâchent, soit ils vous tuent. Donc ce sont des Congolais qui se déguisent en rebelles pour insécuriser cette région. Ne pensez pas que pour restaurer la paix ici, il faut déployer autant de brigades ou des hélicoptères. Pas du tout. C'est notre conscience collective qui peut ramener la paix ici. Si nous continuons à tendre les oreilles aux tireurs de ficelle, les gens vont continuer à mourir.
Conscience collective que
Kila mara. célébration le 12 mai de la Journée internationale des infirmiers et infirmières en RDC. Cette journée est passée sous la méditation pour compatir avec les infirmières et infirmiers victimes des affres des guerres dans la partie est du pays. Au Maniema, le président provincial de l'Ordre des infirmiers et infirmières, Dieudonné Barouani, appelle ses pairs à prier pour leurs collègues se trouvant dans l'est du pays, théâtre des affrontements. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kiza.
Nous connaissons que le 12 mai, c'est notre journée internationale qui nous rappelle la naissance de notre pionnière Florence Nightingale. Partout dans le monde, on doit célébrer cette journée, particulièrement dans notre pays, la RDC. Vous connaissez les conditions auxquelles le pays se trouve, dans une insécurité totale à l'est de notre pays. Le 12 mai, en République démocratique du Congo, est resté une journée de méditation pour nos confrères, consoeurs, et toute la population de l'est du pays en rapport avec l'insécurité qu'ils sont en train de vivre. Nous sommes dimanche, nous tous, nous sommes obligés d'aller dans les églises et prier pour que notre pays quitte ce gouffre de guerre que les autres nous imposent. Donc nous sommes obligés de prier pour notre pays et pour nos confrères qui ont déjà perdu leurs âmes et aussi ceux qui restent encore là en insécurité. Nous sommes obligés de prier pour eux.
Notez que l'OMS célèbre cette journée sous le thème « Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir des soins ». Elle indique que des investissements urgents sont vitaux pour soutenir le personnel infirmier, une éducation de qualité, un environnement de travail décent et un salaire équitable sont nécessaires. 597, c'est le nombre des sociétés détentrices de titres des miniers dont le paiement des 10 droits pour l'exercice 2024 n'est pas retracé par les services financiers du cadastre minier CAMI. La liste a été publiée ce week-end à travers un communiqué du cadastre minier dont une copie est parvenue à Radio Capi. Ces sociétés ont jusqu'à 45 jours pour régulariser la situation ou apporter une preuve de paiement au risque de perdre leur titre des miniers. Des précisions avec Cynthia Bachizi.
Beaucoup de titulaires des droits miniers concernés détiennent des permis de recherche PR, y compris des sociétés publiques. Il y a également un nombre non négligeable de ceux qui doivent s'acquitter des autorisations d'exploitation de carrière permanente AECP. La liste exhaustive est à retrouver sur le site web du cadastre minier, précise cet établissement public. La perception des droits superficiels est l'une des obligations du maintien de validité d'un droit minier ou de carrière conformément aux prescrits du code minier. Passé le délai généralement de 45 jours, le titulaire non en règle de paiement peut être déchu de son permis de recherche, permis d'exploitation dérégé, permis d'exploitation de la petite mine ou droit des carrières et autres autorisations. Pour rappel, c'est depuis le mois de février de l'année en cours que la DGRAD et le CAMI ont lancé la campagne de perception relative aux droits superficiels pour l'exercice 2024. Il s'agit du paiement annuel par carré pour les détenteurs des titres miniers. Le cadastre minier annonçait ainsi dans la foulée que les notes de débit étaient déjà disponibles à son guichet pour retrait.
Dans l'actualité aussi, la 7e édition de la conférence sur l'électricité a fermé ses portes samedi à Kolwezi dans le Lualaba. Pendant 3 jours des travaux, plusieurs sujets ont été abordés. C'est notamment celui relatif au cobalt, lithium et batteries. Le directeur du Centre africain d'excellence pour les batteries encourage la diversification des sources d'énergie pour réduire le déficit énergétique que connaît la RDC. On écoute le professeur Jean-Marie Kanda, joint par Jean Gandou.
Le Centre africain d'excellence pour les batteries a encouragé et continue à mener des démarches pour solliciter en fait ce que l'on peut appeler un mix énergétique. Au-delà de la production de l'énergie électrique par l'hydroélectricité, il est encouragé le développement des parcs photovoltaïques et ces parcs peuvent être soutenus aussi par l'acquisition et le développement des batteries stationnaires afin de garantir une accumulation d'énergie. Mais il y a lieu de favoriser aussi le développement des énergies renouvelables en RDC.
Actualité internationale. Nous sommes au Tchad. 3 jours après la proclamation des résultats provisoires officiels de la présidentielle tchadienne et la victoire au premier tour du président de transition Mahamat Idriss Déby, le premier ministre Succès Masra, qui revendique lui aussi la victoire, vient de déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel.
L'invité.
Analyse du budget parlementaire. L'Assemblée nationale et le Sénat ont effectué entre 2021 et 2023 des dépenses estimées à 1,1 milliard de dollars avec des dépassements budgétaires de près de 300 millions de dollars. C'est ce que révèle le rapport du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFEDEL, intitulé « Le biface du Parlement congolais, un contrôleur à contrôler ». Pour en parler, nous recevons Valérie Madianga, coordonnateur du CREFEDEL. Il est avec Michel Kifindangoy.
Monsieur Valérie Madianga, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes.
Le Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFEDEL, a publié un rapport intitulé « Le biface du Parlement congolais, un contrôleur à contrôler ». Que révèle ce rapport?
Notre rapport, je pouvais dire que fait un constat amer de la gestion des finances publiques effectuée par les deux chambres du Parlement pour les comptes des exercices budgétaires 2021 et 2023. Et notre rapport révèle d'abord que les deux institutions de contrôle ont utilisé une somme qui avoisine les 1 milliard de dollars américains sur l'espace de presque 2 ans. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons relevé qu'il y a de grands problèmes de dysfonctionnement au niveau de l'utilisation des fonds parce que on a enregistré un dépassement de presque 300 millions de dollars au cours de cette période. Nous avons relevé qu'il y a des emplois fictifs au niveau de 2 chambres du Parlement. Le règlement intérieur dit, par exemple, qu'il faudrait recruter au moins un effectif de personnel politique qui avoisine 157. Mais dans le fait, au niveau de l'Assemblée nationale, on a dépassé 2000 personnels politiques et au niveau du Sénat, nous sommes autour de 800. Nous relevons encore que au niveau de l'Assemblée nationale, il y a 2 bâtiments qui devraient être achetés. Les fonds sont sortis, mais les bâtiments n'ont jamais été livrés. Au niveau du Sénat, vous avez, par exemple, les dépôts d'archives qui devraient être construits. Le bâtiment n'a jamais été livré, mais l'État a dépensé près de 81 000 dollars juste pour cette dépense-là.
Quelle démarche méthodologique avez-vous empruntée pour soutenir la véracité de vos affirmations?
Oui, en ce qui concerne la méthodologie, vous savez que notre méthodologie, elle est pratiquement citoyenne. On a rassemblé tout ce qu'il y a comme documents officiels, des documents budgétaires, notamment la reddition des comptes 2021 et 2022. Nous avons également regroupé les états de suivi budgétaire. Nous avons aussi collecté quelques documents relatifs à la passation des marchés publics et nous avons confronté tous ces faits-là avec différents textes qui régissent la gestion des finances publiques dans notre pays. Nous sommes descendus sur le terrain où nous avons organisé des entretiens avec 100 agents publics, mais aussi quelques anciens élus nationaux ou des sénateurs pour comprendre au moins les faits. Nous avons pris tout au plus 4 mois pour analyser tous ces faits. Et ça nous a donné au moins une image de tout ce qui se passe et de ce que nous avons étayé dans notre rapport.
Comment avez-vous évalué le respect de la procédure de passation de marché et de la chaîne des dépenses par les deux chambres?
Le respect du circuit de la dépense publique et du code de passation des marchés publics n'a pas été de rigueur. On a méprisé la loi, on n'a pas tenu compte des principes de la comptabilité publique parce que, imaginez que, même les rapports de la Cour des comptes ne parviennent pas à nous dire à quoi auraient servi, par exemple, certains dépassements. C'est très difficile. Même le ministre des Finances ne parvient pas à expliquer à quoi auraient servi les 300 millions de dollars décaissés en dépassement en faveur du Parlement.
Votre rapport révèle un dépassement de près de 300 millions de dollars pour des dépenses de l'organe législatif congolais estimées à 1,1 milliard de dollars entre 2021 et 2023. Qu'est-ce qui explique cette consommation excessive des finances publiques par les deux chambres du Parlement?
Oui, et ce qui explique d'abord cette consommation excessive, il y a d'abord l'indiscipline budgétaire, le non-respect du circuit de la dépense publique. Ce sont les deux aspects les plus importants. Vous allez noter que sur toutes les lignes, par exemple, le Sénat est en dépassement. Vous allez au niveau de l'Assemblée nationale, je donne le cas de l'achat des véhicules, où lui-même l'autorité budgétaire qui décide de s'octroyer 4 millions de dollars pour acheter des véhicules. Mais dans la consommation, on se rend compte qu'on est à 90 millions de dollars, soit un dépassement de près de 2000%. Ça, c'est de l'indiscipline budgétaire.
Avez-vous tenté d'avoir des explications des deux chambres du Parlement avant la publication de votre rapport?
Oui, conformément à notre méthodologie, nous avons écrit au président des deux chambres du Parlement pour obtenir des explications ou des informations contradictoires par rapport aux éléments qui étaient à notre disposition. Mais dommage que nous avons écrit, c'était le 10 avril, 2024, mais jusqu'à la veille de la publication de notre rapport, personne n'avait répondu. C'est pourquoi nous avons publié notre rapport.
Que recommandez-vous donc pour une gestion orthodoxe des finances publiques?
Pour l'instant, le Parlement doit être contrôlé. Il faut que l'IGF, la Cour des comptes, organise une mission mixte pour auditer la gestion des deux chambres du Parlement et tirer les conséquences. On ne peut pas laisser un dépassement de 300 millions de dollars. Je crois que ça pose énormément de problèmes.
Monsieur Valéry Madianga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'était là notre invité. Il répondait aux questions de Michel Kifindangoy. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.